apéro, voilà. La petite écuyère à cafeter.
De Jean-Bernard Pouy.
Avec. Nathalie Bitan.
Et. Laurent Lévy. Premier épisode.
Double suicide à la Diepoise. Chaque fois qu'il conduisait le 89-931, Charles Dutoit pensait toujours la même chose, avait toujours les mêmes impressions. La nuit, tout est possible. Il tenait ça de tous ces livres de terreur qu'il avait dévorés pendant sa jeunesse. La nuit, les vaches dansent la carmagnole. Les rails des trains se tordent et font des nœuds en grinçant. Cette vacherie d'automoteur 89-931, départ en 22h04, arrivé Dieppe 22h43, le dernier. Le train venait juste de dépasser la gare d'Auffay. Charles vérifia le compteur. 90, c'était bon. Limite. Au-dessus, derrière, ça secoue. Le samedi soir, c'est direct Dieppe. Peu de Pékin se prélasse derrière lui, tente de repérer quelques lumières filantes au dehors, relise le journal du matin, termine les mots croisés. Il doit y en avoir un ou deux qui roupillent à mort, qui terminent bravement un samedi de bibine et qui vont le dimanche à Dieppe pour terminer magnifiquement le week-end en se jouant la gueule dans les rades du port, comme dans la chanson de Brel, Amsterdam, avec le marin qui pisse sur les étoiles. Charles eut un haut-le-cœur. Le sang, en une demi-seconde, quitta entièrement sa tête, sa poitrine et ses bras. Sa main se mit à trembler, loupant les manettes de frein. Les chiens de l'enfer. Il venait de voir, d'entrevoir, un éclair, dans le blanc cru des phares, juste après une courbe à droite un peu serrée, deux personnes sur la voie qui les regardaient, les yeux grands ouverts en hurlant. Et puis, il les a sentis disparaître sous lui, comme s'il les avalait lui-même. Et puis, le choc mou. Charles freina d'urgence, bloquant les tampons. Tant pis pour ceux qui roupillaient derrière. Ils allaient changer de place en deux secondes. Tant pis pour les valoches qui devaient valser.
Merde, c'est pas vrai!
Les deux wagons de l'autorail mirent 100 mètres et 10 secondes pour s'arrêter. Sans respirer, tout était bloqué en lui. C'était comme s'il avait en même temps actionné aussi un frein puissant à l'intérieur de lui-même. Charles avait baissé la vitre de la portière gauche et avait regardé, pendant cet interminable infini de temps, les étincelles, à chaque bogie, éclairer le ballast. La rame s'arrêta enfin. Charles sauta sur la voie, une lampe torche à la main. Tout était très sombre. Les lumières des deux wagons jetaient un peu de jaune sur le bord des voies. Il eut le temps de se dire que la nuit normande lui avait joué un tour de plus, un tour de sorcière. Il passa devant la motrice et aperçut, un peu en dessous, les traces brillantes de deux traînées de sang. Il eut soudain très chaud à la tête comme une fièvre, se dit « merde et remerde et putain de merde ». Comme si c'était une prière au diable, et longea, sans respirer, en boitillant les wagons, où les gens semblaient tous se relever d'une chute, d'une pagaille. Ça gueulait.
Qu'est-ce
ça regardait aux fenêtres.
Mais
un enfant hurlait.
Ne bougez pas, madame.
Bordel,
bougez pas.
C'est sur moi que ça tombe.
Donnez-moi un peu d'eau.
Ça merci. Gueulait. Maman. Il eut encore le temps de se dire.
Maman, j'ai perdu ma poupée.
Il faut faire quelque chose. Prévenir les pompiers,
pas.
La garde d'Yep.
Qu'est-ce qui va bien se passer?
Charles entendit derrière lui le chef de train qui l'appelait. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il marchait. Dans la nuit, comme un automate. Il trouva vite les deux corps, écharpés, en morceaux, en bouillie. Il ne compta pas. Il éclata en sanglots. Et puis, s'avançant un peu plus loin entre les rails, restant sourd aux appels derrière lui, comme s'il avait une fanfare désaccordée dans sa tête, Charles vit alors, dans le faisceau un peu glauque de sa lampe, les deux mains, attachée par des menottes au rail. L'une était coupée, écrasée nette, et l'autre, avait un avant-bras. Avant de s'évanouir, Charles eut le temps de se redire une fois de plus qu'il fallait que ça tombe sur lui. Merde.
Un express.
Je parie qu'il est en train de lire le truc sur le suicide sous le train. Je parie 20 balles.
Tenue.
Et menotté au rail. Le petit gros venait de perdre 20 francs. Sans rechigner, il revint au bar, claqua 2 pièces de 10 sur le zinc et finit son pastis. Gérard, l'air triomphant, prit les jaunets et les jeta dans la boîte à pourboire avec la maestria d'un vrai basketteur de comptoir. Pour le personnel.
Je me suis fait avoir. Mais ça aurait pu être aussi la fusillade de Montmagny. Ils ont quand même découpé 3 types au fusil mitrailleur. Ouais. C'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça.
Mais c'est pas du saignant. Gabriel, il aime quand il y a du résiné partout. Et là, il est servi. Sur plus de 100 mètres, ils ont repeint la voile, les 2 petits jeunes. Et ils risquaient pas de se sauver. Ils s'étaient attachés avec des menottes. Les menottes attachées à des antivols. Et des antivols passés autour des rails. Et on a retrouvé, les toubibs de l'autopsie. Ils ont retrouvé les clés des cadenas dans l'estomac du type et de la fille. Ouais, c'est un vrai suicide, ça, au moins. Ils ont même laissé une lettre. Alors, hein ?
Pourquoi tu t'énerves ?
Parce que je te vois venir. Si tu crois que je te vois pas venir avec tes airs par en dessous.
Mais non, tu vois rien. Tu vois rien comme d'habitude. Et tu vois rien, bah ça n'a rien à voir.
Mais ce café où vociférait Gérard, jamais Gabriel ne l'aurait trahi pour un de ces bars à tapas qui fleurissait dans les environs, pour une de ces pizzas à la graisse de noix, encore moins pour ces bistrots tapageurs aux appellations plus ou moins nocturnes qui ravageaient les pourtours de la roquette. Son bistrot, en plus, avait un nom pas croyable. Le Blaze impossible pour donner un rendez-vous. Au pied de port à la Sainte-Scolasse. Recette célèbre d'une petite ville de l'Orne, d'où était bien entendu originaire le patron. Et Gabriel, on pouvait le voir là tous les matins, à peu près à la même heure, toujours à la même table, près de la vitrine. Parfois, il disparaissait pendant des jours, quelquefois des semaines, mais on avait des nouvelles, des cartes postales. Il voyageait et n'avouait jamais ce qu'il pouvait bien foutre dans toutes ses pérégrinations. Quand il revenait, les habitués soulagés voyaient sa grande carcasse dégingandée traverser l'avenue Le Drurolin avec ses bras trop longs dont il ne savait pas trop quoi faire. Gabriel lisait le journal et revenait sans cesse à cette horrible histoire de suicide. Un frisson parcourait son immense dos quand il se mettait à imaginer la scène, celle où les 2 ados s'attachaient aux rails et se forçaient à avaler les clés d'antivol. Fallait plus que du désespoir pour être organisé pareillement. Fallait être sûr que l'enfer était déjà sur terre. Dans l'article, hors le saignant habituel, il n'y avait pas beaucoup de renseignements sur l'origine des gamins. Leur âge seulement, 17 et 19 ans. Mais rien sur leur famille, sur leur situation, ce qui faisait dire à Gabriel que ce devait être des gosses normaux, issus de familles normales. Sinon, on aurait eu le droit au couplet sur la misère, la drogue, le désœuvrement, le squat et tout le bordel. Mais là, rien. Nib. Sinon qu'ils avaient laissé une lettre expliquant leurs gestes et que ça suffisait pour les gendarmes. Une lettre émouvante, précisait le correspondant. Gabriel nota son nom, comme ça, une manière de commencer le boulot, parce qu'il savait que c'était reparti pour un tour. Faut quand même être tordu du bulbe pour faire ça, le coup des cadenas.
Ouais, quand on se jette sous un train, on se jette sous un train. Là, je trouve que ça fait un peu western.
Ouais. Sauf que Zorro n'est pas arrivé.
Eh non. Et même s'il était arrivé, Zorro, il lui aurait fallu un sacré matériel. Si un métaux, pince coupante, ça colle pas ce truc. Je sens ça bizarre.
Tu vois le mal partout. Tu as du Zola dans la tête. Du Gorgonzola même.
Parce que pour toi, se flinguer, c'est normal.
Ouais. On est en République. Hein. Chacun fait ce qu'il veut.
Et quand chacun, il veut pas, qu'est-ce qu'on fait ? On l'attache ?
Ça y est. Ça recommence. On va y avoir droit au couplet. Maria, sa femme, une catalane reconvertie par amour dans les abats, déboula dans la salle avec son caddie à 3 roues rempli à ras-bord. J'ai du bar pas cher.
Salut, Dorothy.
CNT, FAI. CNPF, RATP. Grouille-toi, Maria, on est à la bourre. J'ai 20 pieds pour midi. Gabriel s'étira sur sa chaise et regarda les autres clients. Au fond, assis sur la moleskine glissante, il y avait le professeur qui carburait au muscadet. Il se leva et paya son café et ses 3 tartines. Gérard le regardait en coin. Il avait compris et ne poserait pas de questions. « À bientôt le poulpe !»« Et que Saint-Jambon te protège !» Gabriel lui sourit plutôt comme une murène et sortit dans l'avenue Le Dreux-Rollin.
L'autorail pour Dieppe démarra. Bruit de ferraille, lumière glauque, ronflement emballé du diesel. Gabriel frissonna un peu. Ça faisait une semaine exactement que les mêmes 2 wagons jaunes et rouges avaient, un peu plus loin sur la ligne, réduit en bouillie, 2 beaux et jeunes corps d'adolescents en crise. Il avait dû préparer son départ, prendre ses affaires, des vêtements, dont sa casquette de combat, comme il disait, divers papiers d'identité, dont la plupart étaient faux, choisir un livre pour méditer dans les temps creux, et empaqueter dans une serviette de toilette un peu huileuse, une arme. Ce coup-ci, Petro lui avait refilé un pistolet Beretta, numéro limé, avec 3 chargeurs. Pour l'instant, ses yeux se fermaient doucement, malgré les fracas des roues et les secousses de l'autorail qui bourraient dans la nuit. Le conducteur était pressé de rentrer chez lui, ou d'aller sur le port s'en jeter un. Peut-être que c'était le même qui avait vu le dernier regard des enfants vivants. Gabriel se leva et sortit le livre de son sac. Il avait emporté un recueil de haïkus, une étude sur un de ses poètes préférés, Matsuo Basho. Il en choisit un pour méditer. La tête vide.
La tête vide.
Quand j'ai sommeil.
Quand j'ai sommeil.
Tous mes bruits.
Tous mes bruits.
C'était bien vrai. Il n'y avait pas beaucoup à réfléchir là-dessus.
Par la fenêtre ouverte, il regardait la Manche. Une immense flaque grise et vert pâle au fond, près de l'horizon, comme pour faire une différence avec le ciel. Un ferry blanc partait de Biet pour la Grande-Bretagne. Gabriel respira à fond en observant le front de mer. Il était prêt. Demain, ce serait lundi et ce serait ravioli, comme disaient les mômes à la cantine de l'école de la rue Saint-Bernard.
Le lendemain matin, Gabriel fonça au siège des informations diépoises, un journal appelé aussi La Vigie, paraissant 2 fois par semaine et couvrant efficacement la région. Il se présenta comme un chercheur du CNRS, Henri Wajsman. Sa fausse lettre d'introduction, mentionnant son travail en psychosociologie et signée par Edgar Morin, il la montra au rédacteur en chef adjoint.
Oui, ça fait 5 ans que je travaille sur le suicide adolescent. D'abord, la bonne vue statistique, mais aussi comme ébauche d'une théorie psychopathologique de la suppression de soi. Je croyais avoir tout vu, mais il y a une semaine dans votre région, c'est monstrueux.
C'est horrible, en effet.
Ah, je ne pouvais qu'en tenir compte pour mon travail.
Bien entendu. J'ai moi-même écrit les articles. J'étais de permanence dimanche matin. Un hasard que j'aurais volontiers évité.
Vous avez été sur place ?
Il a bien fallu.
Je peux vous dire qu'une telle détermination, c'est assez rare. C'était pas qu'une simple mise en scène. Il y avait presque quelque chose qui s'apparenterait à du rituel là-dedans.
Je n'irai pas jusque-là. Il y a eu certes grandiloquence, mais au moment du passage à l'acte, la pulsion de mort est toujours la même.
Exact. Exact et monstrueux à cet âge. La fille était mineure, je crois.
17 ans et 3 mois.
Milieu modeste.
Ah, pas du tout. Des bourgeois, des grands bourgeois même. De ceux qui aiment s'affubler de particules. Varangeville, vous connaissez. Bon, alors, vous comprenez ce que je veux vous dire. Non, c'est plutôt le garçon qui était d'un milieu modeste, des commerçants de Dieppe, des petits commerçants. Lui était majeur depuis peu. Il fréquentait le même lycée que la fille. Tous les deux en terminale. Oh,
tous les deux en terminale. Bien entendu, dans le respect de l'anonymat, je ne vous demanderai pas le nom des suicidés, mais on a parlé dans le journal d'une lettre d'explication. C'est à vrai dire la chose qui m'intéresse le plus dans cette affaire et pour mes recherches. Est-ce que vous l'avez vue, cette lettre, ou lue, peut-être ?
Les gendarmes me l'ont fait lire, j'en ai même fait une photocopie, mais je ne voudrais pas que, comment dire, cette indélicatesse réapparaisse en plein jour.
Le CNRS est sérieux, vous savez, c'est pas une agence de presse.
Bon.
Vendredi, jour de Vénus. Le monde est mort pour nous, notre amour est fort, trop fort, pour qu'on puisse le confronter à la saloperie de l'ailleurs. L'enfer, c'est les autres. Nous vous disons à tous adieu. À certains de nos proches, ces quelques amis en qui nous avons perçu la même force que celle que nous trouverons en nous-mêmes demain, nous disons à bientôt. Nous n'implorons aucun pardon, pas même celui de nos parents, qu'ils ne soient simplement pas tristes. Nous sommes plus heureux maintenant que nous ne le serons jamais. Le monde est trop dur, complexe, menaçant. Nous avons décidé non pas de perdre, mais de nous perdre. Bon courage à vous tous, c'est vous qui en avez besoin. Ne rendez personne responsable, nous sommes libres, on s'aime, on vous aime. Bérénice et Frédéric. Belle lettre.
Il y a même une citation de Sartre, typique des élèves de philo. Mmh.
Les parents, en lisant ça, ont dû avoir deux fois plus de remords. On a deux fois plus de mal de perdre des enfants aussi brillants. Il n'y a pas une faute d'orthographe et de subjonctif.
Je vois le spécialiste. Les parents de la jeune fille, je ne sais pas. Dans la grande bourgeoisie, tout est un peu plus impénétrable qu'ailleurs. Les convenances, le spectacle social, tout ça. Les parents du jeune homme sont partis avant-hier. Ils ont enterré leur fils mercredi, ont mis leur fromagerie en vente jeudi. Et samedi, ils déménageaient à destination X avec leur deuxième garçon.
La jeune suicidée, fille unique.
Vous rigolez ? 7 enfants. Enfin, 6 maintenant.
Dieppe, comment dire ? C'est pas plus pathogène qu'ailleurs.
Pas vraiment. Ça dépend comment on le prend. 17% de chômeurs des industries. Un peu à la dérive, Rouen a tendance à tout rafler. Enfin, la pêche, que dire ? Ça devient
presque... Pendant que le rédacteur en chef adjoint dressait ce réjouissant tableau, Gabriel s'était emparé d'une feuille libre qu'il avait ensuite ostensiblement pliée et mise dans l'enveloppe de papier Kraft. Alors qu'il glissait la photocopie dans sa poche, il replaça lui-même l'enveloppe sur le dossier que le rédacteur rangea comme s'il s'agissait d'un trésor. À votre avis, est-ce que ça vous semble justifié que je tente de parler aux familles ou bien est-ce trop tôt, voire trop ?
Non, ils ne vous recevront pas. Les gosses sont enterrés. Les journaux n'en parlent plus. On passe à autre chose.
La vie continue.
La vie continue. En sortant du journal, Gabriel prit tout droit jusqu'à ce qu'il rencontrât une cabine téléphonique et composa le numéro du pied de port à la Sainte-Scolas.
Allô ? Non mais qu'est-ce que t'en as à foutre où je suis ? Ouais, c'est Gabriel. Oui. Dis-moi, le professeur, il est là ? Bon, va me le chercher.
Gabriel pianota un petit instant sur le rebord en alu près du poste téléphonique. Derrière la vitre, il voyait un groupe de jeunes gens passer, hilares, rayonnants. Il y avait une fille avec des cheveux mousseux et des taches de rousseur sur les pommettes qui était une splendeur. Une image furtive de Cheryl passa dans la tête de Gabriel. La fourrure rose sur le lit de sa chambre, une épaule soyeuse, le jour passant à travers les rideaux.
Professeur, oui, c'est Gabi. J'ai un petit service à vous demander, je vais vous lire une lettre. Une lettre d'adieu écrite par quelqu'un qui va se suicider. Vous me direz ensuite ce que vous en pensez, d'accord ? Merci, professeur. Vendredi, jour de Vénus.
Je dirais que c'est une belle lettre, mais un peu littéraire, un peu grandiloquente. Il y a du motif, de la référence, mais pas beaucoup d'émotion. Un peu comme une lettre type, à vue de nez, comme ça, écrite par quelqu'un d'une trentaine d'années, par quelqu'un qui ne court pas le danger qu'il annonce. Le désespoir total trouve des mots bizarres. Il ne perd pas du temps en faisant du style.
Mais
je peux me tromper. Oui, il n'y a pas de quoi. Je n'y manquerai pas.
Problème.
Mais vous êtes où, là ? Oh, vénard. Bon, à bientôt.
Il est où, le Gabriel ? Il vous l'a dit, à vous ?
Il est à Saint-Tropez. Il cherche une villa pour les vacances. Gabriel récupéra sa carte, sortit en trompe de la cabine et partit presque au trot à la poursuite du petit groupe de jeunes gens qu'il avait aperçu pendant qu'il téléphonait. Il les repéra au moment où il arrivait sur le port intérieur. Les jeunes gens rigolaient et la jeune fille aux cheveux blonds comme de la mousse donnait la main à une espèce de punk, sans épingle. Le petit groupe bruissant se sépara, les deux amoureux partant du côté du front de mer.
Excusez-moi, je suis journaliste. Les Inrecuptibles. Je fais un article sur les petits groupes indépendants du coin. Je peux vous demander un renseignement ?
Les Inroc, c'est un journal de merde. Le rock, c'est pas un télo. Le rock, c'est l'énergie. Et les Inroc, c'est mou.
Ouais, ça se discute. C'est pas sûr que vous ayez raison, c'est pas sûr non plus que vous ayez tort.
Eh, on n'est pas en Normandie pour rien ?
Eh non. Est-ce qu'il y aurait un peu un bar qui serait un peu le rade préféré des gens du lycée là-haut ? Où je pourrais en rencontrer quelques-uns. J'ai déjà interrogé le reste, des jeunes travailleurs, des pêcheurs, des prolos. Ce serait pour avoir un autre son de cloche.
Et nous, on vous intéresse pas ?
Vous êtes lycéen.
Ça se voit pas ?
Vous ressemblez à des espions infiltrés des renseignements généraux.
Il y a le Balto, en haut, route d'auto, ça s'appelle, c'est le plus fréquenté. Mais question rock, je vous préviens, ça va être dur, c'est plutôt dance, house et rave.
Ouais, c'est des nuls, quoi. Des blaireaux qui ont pas traversé la Manche.
Gabriel se força à se marrer.
Il déambula un peu dans la ville, pensant souvent à la réaction intuitive et immédiate du professeur. Il trouva facilement le Balto. C'était un des deux bars qui se tenait à distance respectueuse du lycée, respectant la loi qui est de ne pas installer la débauche à moins de 500 mètres d'un lieu de formation ou d'éducation. Il n'a qu'à se balader en France n'importe où pour s'apercevoir que la loi a bon dos. Il était à peu près 1h de l'après-midi, le coup de feu lycéen. Gabriel entra dans le bar et fila directement au comptoir, commandant un sec beurre et une bière. Et qu'est-ce qu'il y avait comme bière ? Le tout venant. 1664. La date de la bataille de Cronenbourg. Il se rabattit sur une leffe. Une valeur sûre à l'amertume un peu caramélisée et se retourna pour inspecter la salle remplie de jeunesse exacerbée. Il grignota son sandwich en étudiant du coin de l'œil les réactions de chaque petit groupe. Il repéra alors un chevelu habillé de sombre, sans doute sympathisant lointain d'un syndicat lycéen, et écoutant le soir, même pas en cachette, les disques de Léo Ferré. Le type buvait beaucoup. Gabriel avait compté 2 demi et 1 coca. Il n'allait pas tarder à aller au pipi room. Ce qui se vérifia avant même que Gabriel ait repéré les lieux. Mais il le suivit de très près. Entra derrière lui dans les toilettes et le projeta manu militari dans un des chiottes, bloquant la porte derrière lui. Il lui fila une bonne baffe et le força à s'asseoir sur le couvercle de la cuvette. Le type se mit à trembler, prêt à crier. Mais Gabriel mit son doigt sur la bouche en lui filant une deuxième torgnole. Les joues du jeune homme étaient devenues très rouges. Écoute-moi, c'est très simple. Écoute-moi, je recherche des amis de Bérénice et Frédéric. C'est simple, tu vois qui je veux parler? Bérénice, Frédéric?
Mais oui, je sais.
Est-ce qu'il y en a qui sont dans leur classe, là, dans la salle?
Oui.
Qui?
Vous pouvez me casser la gueule, j'aiderai jamais un flic.
Écoute-moi bien, Guevara, je suis pas flic. Les flics, eux, ils ont signé le permis d'inhumer sans enquête. Ça te semble normal que Bérénice et Frédéric se soient flingués?
Mais qu'est-ce que vous cherchez avec vos méthodes de nazis?
Allez, ferme les yeux, petit crétin! Ferme les yeux. Ferme les yeux. Si tu connaissais Bérénice et Frédéric, essaie de les imaginer en pleine nuit. Il fait froid, ils bourrinent sans doute, peut-être qu'ils sont désespérés, je sais pas, mais ils arrivent au milieu des rails et ils s'attachent avec des menottes. Ensuite, ils attachent les menottes autour des rails avec des antivols à vélo. Ensuite, ils avalent les clés, une chacun. Pour les menottes, il n'y a pas besoin de clés. Et ils attendent l'autre rail. Ça te semble jouable comme truc?
Je sais pas. Tout le monde devient fou petit à petit.
C'est tout. T'as vraiment aucune imagination. Quelqu'un était entré dans les toilettes et avait ouvert le robinet. Je vais sortir et peut-être que je vais dire au type qui est dehors que ce que tu m'as fait, c'était super. Ou peut-être pas. En sortant de la cabine, Gabriel eut la surprise de tomber sur le punk déjà rencontré dans la rue. Le type le regarda comme une apparition, puis parut se souvenir et se remodela le rictus adéquat.
Dans les Arocs, vous avez descendu Green Day. C'est dégueulasse.
Il y a des cons partout, même là où je bosse.
Surtout là où tu bosses. Tu pourras dire à tes potes que Dookie, c'est le meilleur CD de l'année?
Ouais, je leur dirai, ils seront vachement impressionnés.
Ok.
Le punk claqua la porte, le lycéen en profita pour sortir des chiottes, l'air soulagé.
Je peux vous dire une seule chose. Frédéric ne faisait jamais de vélo, question anti-vol. Il avait plutôt des gros cadenas et des chaînes pour sa mob. Je le vois mal acheter des trucs ringards uniquement pour se flinguer. Moi, j'étais pas dans leur classe. Je suis en première. À la table, près de la fenêtre, derrière le baby-foot, il y a des mecs de terminale.
Allez, tiens, c'est pour t'acheter le CD de l'année, là, celui dont parlait l'autre tondu tout à l'heure.
J'en veux pas, c'est l'argent du capital.
Gabriel laissa tomber les billets sur le carrelage douteux et sortit des toilettes. Il repéra la table des terminales et fonça directement vers elle. Il ne fut pas autrement surpris d'y retrouver le punk ricanant et sa copine à la chevelure angélique. Écoutez-moi bien les gugus, Vous êtes les anciens copains de ceux qui sont passés sous le train, et moi, je suis Zorro. Si tout ça vous semble normal, normal de perdre ses copains, normal de pas se poser de questions, normal de faire comme si de rien n'était, continuez à jouer au baby-foot en révisant Sartre ou Bergson. Ah, si vous voulez éclater en sanglots, venez me voir, j'essuierai vos larmes. Et Gabriel marqua sur le ticket de caisse à 28 francs 4 cafés verres d'eau le numéro de sa chambre, à l'hôtel Epsom.
Gabriel descendit les rues en pente à la vitesse d'un cheval poursuivi par la marée. Il se gara presque juste en face de l'hôtel, se cala contre son siège et avala une pils. Il se dit que personne ne s'était aperçu que pils, en verlan, ça donnait slip. Il regarda les gens passer avec l'insouciance forcenée et caractéristique du dimanche, quand on sait que le lendemain, il faut aller bosser. Et puis, il se replongea dans son livre de haïku, en choisit un au hasard. Ils se battent.
Les enfants déjà comme les blés.
Et s'étonna de la coïncidence. Peut-être que la chance était avec lui, il ne savait pas trop ce qu'il cherchait. Il n'avait que de vagues pressentiments, aucune preuve, que des intuitions. Et après, qu'est-ce qu'il ferait s'il trouvait quelque chose qui ne soit pas conforme à son éthique perso? Il verrait bien, comme à chaque fois. Les événements lui dicteraient sa conduite. Il y aurait bien un ou deux néfastes à qui il apprendrait le vrai goût du pain. Car c'était ça, Gabriel, pas le vengeur masqué. Simplement quelqu'un qui contrebalançait la vacherie du monde en tatanant quelques indélicats, en remettant des salauds sur le chemin de la rédemption, en expérimentant une technique toute personnelle de reprise individuelle. Et vers 17h30, il repéra sa proie. Il n'eut pas vraiment une énorme surprise en découvrant cette jeune fille sublime, à la chevelure blonde et moussue, cet ange qui avait regardé le soleil à travers une passoire. Dans une petite ville comme Dieppe, tout le monde se retrouve vite.
Merci d'être venu.
Ne me remerciez pas encore. Et pourquoi vous me remerciez d'abord?
Je sais pas, on va bien voir.
Qui êtes-vous? Ne me mentez pas. J'ai fait le premier pas.
Comment vous saurez si je mens?
Je le saurai. Elle était d'une beauté incroyable. D'une de ces beautés que seuls les adultes repèrent. Cette évidence qu'ils ont à jamais perdue.
On va pas rester là. Dites-moi où vous voulez aller, c'est vous qui choisissez.
C'est votre voiture? Vous aimez les huîtres?
On n'est pas dans un mois en air.
Aucune importance. On va aller à Pourville, c'est à 5 km d'ici, et puis j'habite là. Ça m'évitera de prendre le bus scolaire.
Moi... C'est Gérard.
Elle ne répondit pas et boucla sa ceinture.
Vous venez d'écouter le premier épisode de La Petite Écuyère à Cafeté, une adaptation du roman de Jean-Bernard Puy, avec Nathalie Bitan et Laurent Lévy, mise en œuvre de Didier Ruiz, création sonore d'Adrien Cordier, production La Compagnie des Hommes, enregistrée le 19 juin 2026 au Jardin des Berges à Lodève, lors d'une soirée organisée par Entrée Libre et Terre en Partage. Prise de son et montage, William Verdier pour Radio Larzac.
L'altro, ma tu me l'hai detto, dove siamo, è diventato troppo stretto per noi.
Retrouvez Apéro Polar avec l'adaptation de La Petite Écuyère à Cafeté de Jean-Bernard Puy, vendredi prochain à 12h et en rediffusion mardi à 16h ou en podcast sur radiolarzac.org, émission Polar, Vin et Compagnie.
Tiens, voilà le poulpe.
Et d'ici, on dirait plutôt une murène.